Radio Grenouille, 10 minutes avec
la rédaction des 3-8. 10 minutes avec.
10 minutes avec Elisabeth Dorier, géographe et professeure des universités. Elisabeth Dorier qui intervient dans le cadre d'un espace de réflexion et de débat citoyen autour du séparatisme social. Bonjour Elisabeth Dorier.
Bonjour.
Alors, quelle est la situation des ensembles résidentiels fermés à Marseille ?
Alors, dans le cadre de recherches menées donc à Aix-Marseille Université, dans le cadre du laboratoire Population, Environnement, Développement, nous avons effectué deux inventaires des résidences fermées à Marseille, donc l'un en 2008-2009 et l'autre en 2013. Et au terme du deuxième recensement, 2013, qui a été financé par la ville, nous avons dénombré plus de 1550 résidences fermées à Marseille, dans toute la ville, du nord au sud de la ville.
Quels sont les quartiers les plus touchés par ces fermetures ?
Alors, les résidences fermées sont plus nombreuses, plus denses, si vous voulez, dans les quartiers sud, en particulier le 9e arrondissement, un 8e, 9e arrondissement, où elles peuvent représenter, dans certains quartiers, plus de 50% de la surface et plus de 80% des logements, notamment dans le secteur de la Panouse, par exemple.
Est-ce que ça touche plus les quartiers riches que les quartiers pauvres ?
Ça touchait davantage les quartiers aisés que les quartiers pauvres lors de notre première étude en 2008, mais le phénomène s'est diffusé et actuellement on constate l'apparition de pas mal de nouvelles résidences fermées ou de fermetures de résidences qui existaient déjà mais qui étaient ouvertes, notamment dans le 13e et le 14e arrondissement.
Et quelles sont les conséquences de ces fermetures ?
Les conséquences des fermetures sont multiples. Donc d'abord, on a des conséquences sur la circulation. Lorsque les résidences fermées se touchent les unes les autres, c'est-à-dire que nous avons des agrégats de résidences fermées qui se constituent un petit peu par vase communicant, c'est-à-dire que quelquefois une résidence se ferme dans le but d'éviter le stationnement sauvage à l'intérieur d'un lotissement, par exemple à l'intérieur d'une copropriété. Du coup, le stationnement se reporte sur la résidence d'à côté qui à son tour va se fermer et ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on observe par exemple au terminus du métro Sainte-Marguerite ou également au terminus du métro La Rose où les résidences se ferment de proche en proche. Mais finalement ces fermetures de proche en proche aboutissent à former des agrégats de résidences fermées qui entravent les circulations véhicules, donc qui obligent à les contourner et qui, et là c'est plus gênant, entravent aussi parfois les circulations piétonnes, ce qui oblige donc les piétons à faire de longs détours et ce qui va finalement inciter les habitants à prendre leur voiture pour certains déplacements, par exemple aller accompagner ses enfants à l'école ou aller acheter son pain. Comme on ne peut plus couper à travers la résidence voisine, eh bien on va faire un trajet plus long et on va le faire préférentiellement en voiture. Voilà.
Vous parlez également des espaces verts.
Alors, on constate que beaucoup d'espaces verts dans certains quartiers qui manquent d'espaces publics, puisque Marseille est quand même une ville qui manque d'espaces publics, notamment dans les quartiers, et d'espaces verts dans les quartiers. Et je ne parle pas, bien sûr, du parc des Calanques, périphérique, mais disons pour la fréquentation quotidienne ou journalière, pour que les enfants puissent jouer, pour que les gens puissent se dégourdir les jambes. Eh bien, souvent, ces espaces-là se trouvent à l'intérieur des résidences, copropriétés ou lotissements pavillonnaires, et qui vont être encloses et donc fermées à l'accès des riverains et réservés à l'usage donc des copropriétaires. Donc on se retrouve avec des espaces verts communs, en nombre relativement important, mais communs de copropriétés, mais qui ne sont évidemment pas des espaces verts publics. Donc par ailleurs, des ensembles de résidences fermées situées au contact ville-nature, je pense au secteur des Hauts-de-Mazargues ou encore dans le 10e arrondissement, peuvent avoir un effet barrière et bloquer certains accès aux calanques. Donc on est là aussi, les piétons du voisinage sont obligés de contourner ces résidences pour aller se promener dans les massifs.
Jusqu'en 2014, vous expliquiez qu'il fallait un permis pour fermer justement une résidence. Et en 2015, on peut fermer comme on veut en fait.
Voilà, alors je précise que les fermetures de résidence ou même les fermetures de rue, parce qu'il y a beaucoup de rues qui étaient ouvertes à tout le monde jusqu'aux années 2000 et qui sont en train de toutes se fermer à Marseille, en particulier aux abords du boulevard Michelet, ce phénomène est bien connu. Eh bien, ces rues qui se ferment sont des rues privées. Donc c'est quand même un phénomène très marseillais. Beaucoup de rues, de lotissements, de copropriétés sont restées privées. Elles n'ont pas été restituées à la ville, c'est-à-dire ce qu'on appelle classé. Classé, donc c'est quand une rue construite par un lotisseur est finalement donnée à la collectivité qui va en assurer l'entretien, moyennant le droit pour tout citoyen d'y accéder. Donc ces rues sont des rues qui sont restées privées, et ce sont ces rues privées qui se ferment. Et donc qui se ferment depuis une quinzaine d'années. Alors il fallait néanmoins une autorisation pour fermer, même si l'on est propriétaire de l'espace. Dorénavant, depuis 2014 et le décret d'application est sorti récemment, eh bien, on n'a plus besoin de demander une autorisation pour fermer, pour clôturer un espace privé. Alors que ce soit votre espace individuel privé ou que ce soit une copropriété ou un lotissement qui a plusieurs copropriétaires. Donc auparavant, la demande passait donc forcément devant les services de la ville et ceux de la métropole, enfin de la communauté urbaine. Dorénavant, il n'y aura plus de traces quand il s'agit juste de poser une clôture. Évidemment, on ne peut pas édifier un mur, c'est autre chose, parce qu'édifier un mur, c'est une construction. Donc là, il faut un permis de construire.
Et qu'est-ce qui motive les habitants à vouloir se renfermer ?
Ouais, alors c'est pas toujours la même raison. Donc on a des habitants qui achètent une résidence qui est neuve. Donc cette résidence, elle est dotée d'un système de fermeture dès la construction par le promoteur. Donc dans ce cas, les gens qui veulent acheter vont choisir cette résidence parce qu'elle est fermée, sécurisée. Ou bien ils vont choisir le quartier. Ils veulent absolument acheter dans ce quartier-là. La seule offre immobilière qui existe est fermée. Donc du coup, les gens achètent dans une résidence fermée sans forcément le faire exprès. Mais il y a plus de la moitié des cas à Marseille, ce sont des cas de résidences qui étaient ouvertes et qui se ferment, sur la volonté, en fin de compte, de leurs copropriétaires qui votent à la majorité pour la fermeture. Il suffit d'avoir la majorité relative pour fermer. Dans ce cas, les motivations que nous avons observées sont beaucoup la question du parking, du stationnement, notamment aux abords des terminus de métro, j'en ai parlé tout à l'heure, aux abords de grands équipements comme par exemple le Dôme, où il y a une concurrence, si vous voulez, entre le stationnement résidentiel et des usagers qui viennent et qui se glissent un peu n'importe où. Les plages aussi, donc là aussi, c'est une grande raison de fermeture. Ou encore les entrées de parc des Calanques, où là, c'est pareil, pour éviter le parking sauvage. Ensuite, vous avez l'entretien, tout ce qui est entretien des espaces, bon, puisque la fermeture permet aussi d'assurer un entretien à l'intérieur de la résidence, donc de garantir la propreté, etc. Ensuite, vous avez des incivilités ou des pratiques illégales, comme par exemple à la prostitution, aux abords du boulevard Michelet, ça a été une des raisons invoquées, ou encore des dégradations liées à des supporters sportifs, par exemple, pas loin du stade Vélodrome. Puis évidemment, je n'ai pas encore parlé de la sécurité en elle-même, mais bien entendu que c'est une raison qui peut être invoquée, des cambriolages, des vols de voitures, des dégradations de matériel. Enfin, et quand les gens évoquent aussi leur goût, le fait qu'ils achètent dans un lotissement fermé, c'est aussi beaucoup la sécurité routière, c'est-à-dire pouvoir laisser les enfants jouer dans la rue sans avoir peur qu'ils soient renversés par une voiture qui passe à grande allure, parce que souvent il y a des ralentisseurs, etc. Donc en fin de compte, la raison n'est pas partout la même selon le quartier. Il faut ajouter aussi l'entre-soi, bien sûr, l'entre-soi social dans des résidences de luxe, où une partie des enjeux de la fermeture, c'est aussi de préserver l'accès à des jardins très bien entretenus, à des cours de tennis, à des équipements, et puis de ne pas être dérangé, d'être protégé de toute intrusion, quelle qu'elle soit, de l'extérieur.
Et est-ce que vous pensez que ces fermetures, elles peuvent présenter un risque pour la mixité sociale ?
Alors, ces fermetures, disons qu'elles garantissent une certaine homogénéité interne à la résidence. Ces fermetures peuvent témoigner d'un manque de mixité sociale dans certains cas, c'est-à-dire l'idée de se séparer de l'autre, de maintenir un entre-soi. Mais paradoxalement, les résidences fermées sont utilisées dans les politiques de la ville comme un outil de mixité sociale. En tout cas, l'argument, c'est celui-là, c'est-à-dire... Je rénove un quartier d'habitat social qui est une sorte de ghetto, de ghetto de pauvres, quoi. Et je libère des parcelles sur lesquelles un promoteur va construire une résidence avec des logements de qualité. Je voudrais attirer des classes moyennes dans ce quartier-là pour faire de la mixité. Et donc, le promoteur se dit qu'en fermant, en sécurisant, ça va rassurer les accédants à la propriété qui vont du coup oser aller s'installer dans un quartier peut-être stigmatisé. C'est ce qui s'est observé par exemple à Plandaou, à côté de la cité, qui a été presque entièrement démolie maintenant. Donc il y a des logements sociaux qui ont été reconstruits sur place. Et tout autour, des résidences fermées ont été créées et où on voit s'installer des classes moyennes ou moyennes supérieures. Du coup, c'est présenté comme un outil de mixité sociale. Alors, ce qu'on peut se demander, c'est si c'est vraiment de la mixité ou si c'est du compartimentage. C'est-à-dire, est-ce que les gens de la résidence fermée, qui s'installent à côté d'un quartier HLM, est-ce qu'ils vont fréquenter, je ne sais pas moi, les commerces présents dans la cité HLM, est-ce qu'ils vont avoir des relations sociales de voisinage avec les habitants des HLM voisins? Donc, en fait, quand est-ce que la mixité, elle est juste comme ça dans les chiffres, quoi, et où est-ce qu'elle est vraie, elle se fait vraiment dans le quotidien? Et au quotidien, pour le peu qu'on ait pu l'observer, il n'y a pas, en fait, pas vraiment de contact. Hein. Donc, en fin de compte, c'est plutôt du compartimentage que de la véritable mixité, ce que nous observons.
Merci beaucoup, Elisabeth Dorier.
Mais de rien, merci à vous.
C'était 10 minutes avec Elisabeth Dorier, géographe et professeure des universités sur Radio Grenouille.
La rédaction des 3-8, 10 minutes avec...